I'm not surprised, motherfuckers.
Et bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 119 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, UFC Mexico, City Ciudad Mexico, CDMX. Eh ben, carte pas mal sur le papier, quelques petits combats et surtout combattants qui m'intéressaient. Et main card intéressante, un combat sur les prélims qui va nous intéresser, bien sûr, c'est l'opposition entre Fares Ziam et Claudio Puelles. Le Péruvien face au Français chez les lightweight et la plupart des combats de la main card seront analysés dans ce podcast. Commençons donc directement avec ce combat des prélims entre Ziam et Puelles. Puelles a voulu faire encore une fois, a voulu absolument amener le combat au sol. Je ne sais pas si vous vous rappelez du dernier combat de Claudio Puelles face à Dan Hooker qui s'était avéré être un fiasco, hein, vraiment pour le Péruvien, avec clairement une envie d'aller au sol qui prenait le dessus sur l'envie de se battre au final. Et Puelles, bien que très entreprenant dans le grappling, n'a pas vraiment su profiter de ces moments de domination positionnelle pour vraiment aller inquiéter Fares Ziam. Mais je pense que Fares Ziam va pouvoir retenir beaucoup de ce combat. Premier round, première tentative de single leg pour Puelles qui remonte vers le double underhook et amène directement Fares Ziam au sol. Alors ça, c'est un peu le fil rouge du combat. Le fait que Fares n'ait pas vraiment su défendre les assauts de lutte de son adversaire, c'était vraiment le mauvais début, hein, clairement pour le Français. Il a réussi à s'extirper, à aller vers la grille pour se relever, mais Puelles a encore une fois gardé ce bodylock. Et ce bodylock, ce sera vraiment l'arme de Claudio Puelles, bien qu'elle soit inoffensive par la suite, mais c'est clairement ce qui a amené le Péruvien à dominer le Français dans les échanges de lutte. Il a réussi à ramener Fares directement au sol à nouveau derrière. Fares est dans la demi-garde et travaille beaucoup pour se relever, mais Puelles, comme je vous le dis, garde toujours ce bodylock qui gênera énormément Fares Ziam. Par contre, dès que Fares réussit à briser la lutte et striker, il connecte au corps et Puelles recule. Puelles, lui, par contre, sur le striking, fuit vraiment en avant sur des one-shots. Je trouve ça vraiment, vraiment pas beau comme style, pas efficace non plus. Style unidimensionnel de la part du Péruvien. Fares peut lire facilement les attaques justement de Claudio et arrive à counter avec des kicks, arrive à counter avec des jabs. D'ailleurs, un jab enverra Claudio Puelles au sol pour un knockdown. Ziam suivra derrière avec du ground and pound, mais ne veut pas vraiment rentrer dans la garde de Puelles. Évidemment, tu ne veux pas aller jouer son propre jeu quand le gars veut absolument amener le combat au sol. On se relève et Claudio shoot direct pour un single leg. Le Péruvien veut encore une fois absolument amener ce combat au sol et profite encore une fois d'un bodylock pour soulever Fares et l'amener au sol. Voilà, premier round, je pense, pour Puelles. Dans le côté entreprenant, le fait qu'il ait... qu'il a amené plus de son adversaire au sol, mais après, il y a peut-être le dommage de Fares qui rentre en jeu sur ce knockdown. Ça restait juste un jab, mais clairement, c'était l'échange qui a été le plus dommageable, on va dire, au niveau, clairement, du damage. Deuxième round, Puelles tente évidemment un takedown dans les 5 premières secondes, mais finit en dessous. Fares préfère se relever et striker, ça c'est smart de la part du Français. Autre tentative de single leg de la part de Claudio qui semble vraiment limite rentrer avec ce single leg pour uniquement aller chercher le bodylock derrière, et ce qui amènera encore une fois Fares au sol. Claudio aura même cherché le full mount pour un bref moment, et encore une fois il n'aura pas su profiter de ce moment. C'est ça que je trouve vraiment décevant dans la game du Péruvien, c'est qu'il fait tout pour amener le combat là où il veut, mais une fois que le combat est là où il veut, il n'est pas capable de faire ce qu'il veut. Fares travaille fort pour se relever, mais n'est pas loin de donner son dos. Il sera bien corrigé par son corner qui lui crie dessus, ne montre pas ton dos. C'est un des seuls aspects sur lequel Claudio pourrait gagner, je pense. Donc bon move du corner de corriger Fares là-dessus. Claudio tentera un rear naked choke debout avec le fameux sac à dos. Mais il se retrouve en dessous, amenant Fares au sol. Ziem décide pardon, de rester au-dessus et de travailler quelques shots dans la garde de Claudio. Bonne approche parce qu'il faut commencer à gagner le combat. Hein, et faire sûr qu'on gagne le combat pour Fares. Du coup, il va mettre un peu de damage et un peu de ground and pound. C'est vraiment bienvenu. Troisième round, Ziem pousse et lutte contre la grille. Alors ça, j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit Ziem qui soit entreprenant sur ce côté-là, mais il se fait double leg deux fois de suite dans les deux premières minutes. Claudio réussit quasiment tout dès qu'il entreprend pour aller chercher un takedown. Vraiment, ça passe souvent, mais ne fait pas assez de damage. Il n'y a pas vraiment de côté offensif. C'est une domination stérile dans le grappling. Et avec les nouveaux scoring, bah, évidemment, ça ne sert à rien. Un ground and pound bien trop timide s'il arrive une paire de fois, on va dire, pour le péruvien sur tout le combat. Pas de tentative de soumission, donc vraiment pour le scoring, ça va être très compliqué pour Claudio Pueyes. Fares passe pas mal de temps en dessous, mais se relève encore. Un beau petit scramble et on se retrouve au-dessus pour la dernière minute pour Fares. Et là, il va pousser un peu plus. Claudio a encore pourri le combat. Fares s'est pas fait soumettre, c'est bien. Mais comme je vous dis, il apprendra beaucoup, je pense, avec cette lutte. Hein, parce que clairement, il s'est fait amener au sol plusieurs fois. Certes, il a su se relever derrière, mais il faudra quand même corriger certains aspects dans la lutte de Fares Ziem. Alors, un arbitre a donné 29-28 pour Pueyes, un arbitre a donné 30-27 pour Ziem et un arbitre a donné 29-28 pour Ziem. Moi, je voyais ça pour Ziem, mais bon, après, forcément, avec ce combat-là, le fait que, genre, Claudio pourrisse le combat, une limite nullifie le combat, c'était sûr que le scoring des arbitres allait partir dans tous les sens. Ouais, scoring foireux un peu, mais victoire de Fares Ziem, voilà. Mais Pueyes, c'est un problème pour le UFC, j'ai envie de dire, pour lui-même, surtout, parce que ce côté unidimensionnel, clairement, n'a vraiment pas fonctionné dans ses derniers combats. Voilà, Fares Ziem va pouvoir continuer après. Comme je vous le dis, la lutte, il va y avoir pas mal de trucs à corriger. C'est bête parce que sur le striking, ça marchait mieux pour lui. On en apprendra plus dans la suite pour Fares. Le combat suivant qui m'intéressait vraiment beaucoup, hein, c'était évidemment le retour de Yasmine Jauregui qui se battait contre Hughes. Cool combat. Et puis Yasmine, moi depuis le début que je la regarde, ça fait, elle est jeune encore, je crois qu'elle a 24 ans seulement, mais avec ses débuts à l'UFC, moi j'avais beaucoup apprécié sa boxe. Elle a toujours des counters vraiment sympas, ses 1-2 sont vraiment bons et elle a été très très difficile pour Hughes. Hughes a eu vraiment un sale moment. Ça a été 3 rounds très très compliqués pour l'américaine. Vraiment des counters sympas, des 1-2 qui marchent très bien pour Yasmine. Une garde haute qui aurait été disciplinée pas mal tout du long du combat. Très bonne entrée pour les jabs. Des belles feintes déjà dans le premier round. Les 1-2 connectent dans le premier round déjà. Hughes veut lutter pour casser le rythme, mais Yasmine défend bien la lutte. Et quand on part dans le clinch, bah, Yasmine la punit avec des genoux encore et encore. Et même en sortie de clinch, des fois, Yasmine va aller chercher des bonnes patates. C'est vraiment plaisant à voir comme style hargneux de la Mexicaine. Hughes réessaie hein, toujours. Hein, dès qu'elle va aller chercher ce clinch, elle va se faire punir dans la poche. Le dirty boxing de Yasmine est bien meilleur que celui de l'Américaine. Vraiment, elle se régale dans ses séquences. Même contre la grille, hein, Yasmine reste active dans le dirty boxing et Hughes se fait punir. Jauregui avance fort avec ses doubles jabs. Hughes traîne trop dans ses sorties et se fait punir et connecter direct avec la main arrière de Jauregui. Round fun et rapide de la Mexicaine. Elle est bien chez elle, ça se passe bien pour le moment. Round 2, Hughes va au clinch et même scénario, c'est les genoux qui punissent. Hughes ne cherche vraiment pas à comprendre et avance et se fait counter direct. Alors mauvaise solution hein, vraiment d'être frustré de continuer à avancer sur ton adversaire alors que tu te fais connecter directement derrière. Il n'y a pas de solution pour l'américaine. Jauregui passe des low kicks en plus derrière les jabs. Alors elle commence à varier les niveaux, ça va être vraiment compliqué pour l'américaine. On commence bas et on finit par remonter en haut pour toujours aller chercher ce crochet du gauche de Jauregui qui fera mal à son adversaire. Les switch kicks sont aussi très bien timés de la part de la Mexicaine. Hughes retente de pousser contre la grille, mais vraiment zéro succès derrière. Jauregui pousse un gros pace sur Hughes qui essaie encore d'avancer, mais rien ne marche. Yasmine garde toujours les mains hautes et se fait peu toucher. Quand elle se fait toucher, c'est dans la garde généralement. Troisième round, Yasmin garde toujours le contrôle du centre de l'octogone. Hughes essaie d'y aller sous les conseils de son coin qui lui demande vraiment de lâcher les chiens. Hein. Et Yasmin utilise aussi bien les front kicks et met toujours du volume dans ses combinaisons furtives. Les high kicks sont aussi rapides, c'est vraiment du paf-paf. Très, très compliqué pour Hughes. Sale soirée pour l'américaine. Yasmin se déplace bien et en plus va chercher des angles hein, sur le troisième round. Ça, plus la domination dans la poche, c'était bien trop pour Hughes. Victoire éclatante, vraiment domination totale de l'américaine, qui encore une fois a su nous montrer son talent, sa discipline, ses beaux déplacements, sa belle boxe, sa défense de lutte. Elle a eu une défaite récemment, je crois qu'elle s'est fait allumer dans le premier round et ça a peut-être été un wake-up call pour la mexicaine. En tout cas, vraiment, Hughes, je ne connais malheureusement pas son classement, elle doit être loin là. Mais Jauregui, de toute façon, même si elle a perdu ce dernier combat, faut pas non plus l'enterrer à 23 ans, genre elle a perdu, ça y est, c'est une fraude. Enfin voilà, quoi, ça peut aller très vite, le sentiment des fans et du UFC, mais clairement, c'est une bonne boxeuse, c'est une bonne lutteuse, c'est une bonne strawweight, pardon, excusez-moi. Donc ouais, Sam Hughes, maintenant, elle est à 8-6, je crois, en pro, du coup, c'est sûr que c'était un peu, un combat pour la remettre dans le droit chemin, je pense, Yasmin Jauregui. Mais bref, elle a géré comme il fallait. J'ai hâte de voir la suite pour elle encore une fois. Denise Gomez l'avait éclaté la dernière fois, mais bon, enfin, seconde au premier round. Tout peut arriver, c'était fait connecter. Puis là, sur sa garde, elle était clairement vraiment, vraiment disciplinée. C'est bon à voir. C'est bon à voir. J'ai hâte de voir la suite. Comme je vous le disais, de toute façon, c'est pas après cette défaite que je doutais de Yasmin. Il va falloir aller chercher plus de combats et tranquillement aller chercher peut-être une top 15 à un moment donné. Mais continuer à la build-up tranquillement. Elle a que 24 ans. C'est très, très jeune pour rentrer au UFC. Vivement la suite pour Yasmin. Franchement, si vous aimez la boxe dans le MMA, si vous aimez les beaux petits déplacements et tout, je pense que vous aimez Yasmin, c'est pas possible autrement. On passe au combat suivant entre Chris Duncan et Torres, le Mexicain. Alors celui-là m'intéresse parce que Chris Duncan, il est quand même... il a un beau parcours parce que... Il avait perdu au Contender Series en 2021, il s'était fait KO au deuxième round. Avant ça, il était invaincu chez Bellator et puis il est revenu au Contender Series en 2022. Premier round KO Punch, il a gagné ses deux combats suivants à la décision au UFC. J'étais quand même impatient de voir vraiment ce qu'il valait face à un local... qui lui aussi est venu des Contender Series, s'est qualifié en 2021 et a gagné ses deux premiers combats au premier round. Vraiment, on pouvait s'attendre à du lourd entre les deux. C'est pas seulement Chris Duncan, c'était vraiment, je trouve le match-up était sympa. Et le combat a clairement livré parce que les deux sont partis comme des zinzins directement, début débile où Duncan connecte une droite à Torres qui fait mal, mais Torres passera un genou derrière qui mettra Duncan direct en danger. Gros bordel contre la grille, enfin on est parti au sol en premier, on s'est relevé, scrap de lutte contre la grille. Torres passe, c'était bizarre, c'était comme un semblant de Kimura Trap, donc il avait ils étaient debout les deux contre la grille. Il va chercher un Kimura Trap au-dessus de la tête de son adversaire, c'était vraiment bizarre. Je pense qu'il s'est un peu accroché à ce qu'il avait à un moment donné, puis au final il a réussi à aller chercher un takedown avec cette position. Beau trip pour finir le takedown, passe prendre le dos de Duncan, il a été chercher direct le coup, je pense que Duncan n'a pas été assez rapide et a été obligé de chercher la grosse défense de survie, d'essayer d'aller chercher un bras derrière sa tête hein, avec ses deux mains, et puis c'était trop tard là, c'était en dessous du menton, et puis le tape, et puis Manuel Torres, ça fait 3 victoires de suite au premier round au UFC. Et ouais, ça doit quand même mettre la puce à l'oreille aux fans, ce genre de combattants. C'est des gars qui font plaisir à voir et que le UFC aussi tient à mettre en avant, je pense. Donc, Cool. Franchement, El Loco, là, pas mal du tout le bonhomme. Hein. Lightweight, 5 pieds 9, explosif, 3 victoires au premier round pour ses 3 premiers combats au UFC. Qui nous vient des Contenders ces nuits, Manuel Torres, El Loco, de Chihuahua. Voilà, vraiment clairement un œil à garder sur lui. On a hâte de voir la suite pour le Mexicain. On passe au co-main. Et ouais. Ouais, ce co-main, alors, la revanche, Ortega versus Yair, parce que Ortega qui s'était fait l'épaule face à Yair, bon, il y avait un peu de frustration après ce combat, mais Yair dominait dans le striking dans le premier combat, écoutez, on était curieux, mais moi déjà j'étais content de revoir Ortega parce que le mec, comme il disait au micro après une interview, le gars a eu vraiment des galères personnelles. Il a perdu des amis, voilà, des amis à lui sont décédés plusieurs coups sur coup, donc ça a été très compliqué au niveau de la vie personnelle de Ortega. Il y a eu une rupture. Voilà, il est devenu très religieux depuis un an. Apparemment, ça va mieux pour lui. Bref, moi je dis, peu importe ce qui marche pour toi, du moment que tu te sens mieux mentalement et que tu es plus heureux, tant mieux. Franchement, je souhaite que le meilleur aux gens. Et puis pour Ortega, pareil. Je me suis permis un peu de me moquer de lui pour son allégorie de l'histoire de l'aigle qui a deux vies et qui vit 70 ans. C'est absolument un gros hoax de Facebook qui date de 10-15 ans, quoi. C'est ton oncle qui relaie une histoire un peu sur les internets. Voilà, mais c'était plus drôle qu'autre chose, mais enfin, c'était pour l'anecdote. Et au final, ben, Ortega a géré, Yair a déçu. Vraiment m'a déçu parce que il y a les deux côtés qui sont rentrés dans ce combat-là. C'est Ortega, vraiment le dog, vraiment le gars qui, un peu comme quand il a essayé de finir contre Volkanovski, là, qu'il a vraiment, il se faisait dominer, puis il a failli finir avec cette fameuse guillotine montée, hein, et puis le triangle derrière, quoi. Ortega a eu un moment comme ça, et Yair a eu des bons moments, mais Yair a été limite méconnaissable. Je l'ai trouvé vraiment changé à un moment donné dans le combat et je vous avoue que j'ai pas compris. Premier round, les deux se testaient dans la poche hein, et Ortega n'avait pas peur d'aller boxer Yair passait les premiers jabs et Yair a connecté deux fois de suite pour envoyer Ortega au sol qui va aller lui directement se relever pour aller chercher un single leg pour survivre et s'en sortir. Et ça, déjà, ça puait pour Yair parce que je voyais Ortega qui était vraiment en mode bon, le gars va pas se faire finir. Il va pas se faire finir, ça va être compliqué de le finir. Il va réussir à aller chercher la lutte et aller chercher le grappling pour pouvoir s'en sortir, ou alors même aller boxer s'il le faut. Et je voyais que Brian était clairement affecté, mais Yair n'a pas poussé. Brian, quand il est sorti justement de ce bourbier là, clairement, parce que Yair l'a vraiment bien connecté pile sur le menton et derrière l'a fait retomber avec une autre connexion derrière, enfin avec les mains et ça frappe fort. Clairement, Ortega était dans un sale, mais je vous dis, aller chercher single leg pour survivre, etc., c'était vraiment impressionnant. Mais derrière, Brian semblait clairement affecté. Je trouve que le rythme a baissé doucement derrière et j'étais étonné que Yair n'ait pas continué dans le même pace. Les kicks de Yair étaient moins rapides, c'était moins paf-paf. Et Ortega retombait au sol après un bref assaut de Yair. Alors, le Mexicain travaillait un peu de ground and pound en restant prudent dans la garde de Ortega qui a fini par tenter de prendre le dos, obligeant Yair à se relever et perdre la position. Bref, rendre vraiment intéressant, mais l'instinct clinique killer de Yair était pas là. Bon, après Ortega, comme je vous le dis, il sait se débrouiller. Hein, puis, genre, aller chercher du gros ground and pound dans la garde d'Ortega pour aller se faire toper un bras ou alors n'importe quoi hein, qui peut arriver d'Ortega de son dos. Il est vraiment très, très, très créatif et très bon. T'as pas forcément envie d'aller jouer là-dedans. Alors, ça, je peux le comprendre. Mais je vous dis, premier round, j'ai trouvé que Yair a manqué de pace ou alors a pas voulu enclencher vraiment la troisième ou la quatrième, quoi. Et je sais pas. Pourquoi? J'ai pas compris pourquoi. Entre le premier et le deuxième, le corner dit à Ortega, don't blow your nose. Clairement, son nez a pris cher. Mais au deuxième round, c'est Ortega qui pousse directement contre la grille. Et comme je vous dis, Yair me semble toujours une pace en dessous de lui-même et de Ortega. Ortega pousse contre la grille et je trouve que Yair est vraiment feignant sur une défense de lutte et préfère tenter une guillotine inoffensive plutôt que de sprawler. Hein, ou d'aller chercher des underhooks pour pouvoir défendre la connexion des mains de Ortega, parce que quand vous poussez quelqu'un contre la grille, le basique, la base, hein, quand vous voulez l'amener au sol, c'est vous arrivez à connecter vos deux mains ensemble derrière ces deux jambes. Là, normalement, si vous arrivez à faire ça, si vous avez un niveau correct, ça finit au sol. Et Yair l'a vu venir, mais plutôt que d'aller défendre ça, il allait chercher une guillotine qui savait qu'il allait pas finir parce que, bah, de une, même si la guillotine allait être du bon côté, Ortega allait être capable de la défendre. Là, elle était du mauvais, donc Ortega, il avait juste à chiller, quoi. Il lui restait 3 minutes à gérer en dessous. Brian travaille, lui, par contre, très bien pour garder sa position. Ça, en MMA, je vous le dis, c'est très très important, hein, garder la position quand vous êtes au-dessus. Avant de commencer à mettre du grand endpan à fond, etc., fais sûr que tu as des bonnes bases. Envoie 2-3 coups, reprends ta base. Envoie 2-3 coups, reprends ta base. Envoie 2-3 coups, reprends ta base. S'il y a une soumission qui s'ouvre parce qu'il commence à bouger ses bras pas comme il faut, etc., bah commence à le travailler. Mais ça, Brian Ortega l'a très bien fait. Yair a eu aucune discipline dans son approche du combat. Brian, lui, dans les moments où ça allait dans son sens, il a eu la discipline qu'il fallait. Yair ne parvient pas à contrôler ses frames, il a un petit peu de répondant avec des hammer fists, alors c'est cool à voir, c'est impressionnant, etc. En attendant, il perd le round. Ortega balance quelques coudes, hein, mais comme je vous le dis, il veut surtout tenir la position pour lui garantir ce deuxième round. Yair s'est fait ouvrir l'arcade avec des coudes et ne peut qu'attraper la tête d'Ortega pour limiter les dégâts. Un round chaque, le coin de Yair demande du mouvement, ne pas rester dans la zone de Brian Ortega. Voilà, comme je vous dis, ça va dans mon sens, je trouve Yair tout simplement pâteau. Alors pour un gars de 145 livres qui bouge autant qu'Yair, qui est insupportable sur ses déplacements, etc., quand vous battez face à lui, bah là, j'ai pas du tout vu ça et c'est vraiment ça qui m'a déçu de Yair. Troisième round, Yair lâche des gros single kicks, alors là, je sens du désespoir, limite du côté du Mexicain. Brian Ortega part pour pousser contre la grille dès qu'il a l'occasion et amène Yair bien trop facilement au sol. Brian se retrouve en full mount derrière, on dirait que Yair a complètement abandonné. Il passe le arm triangle et puis il termine direct. Sale performance de Yair et magnifique killer instinct de Ortega qui, bah, quand il a eu une occasion de faire une attaque, hein, de soumission, il l'a prise, mais il fallait être sûr que ce soit safe. Bon, bah là, il y avait Yair qui commençait à tourner alors qu'il était en full mount. C'est le moment, quoi. C'est le moment d'aller chercher ce bras et puis le head and arm. Et puis, bref, ça a été un petit squeeze tranquille de Brian Ortega. Yair a tapé direct parce que pour Ortega, bah, c'est des gestes qu'il a répétés over and over and over again. Et c'était du pain béni pour Brian Ortega, vraiment du pain béni, et je ne comprends toujours pas la prestation de Yair, et surtout le côté physique cramé de Yair sur 3 rounds, quoi. Parce que comme je vous le dis, si vraiment il n'avait pas le pace, s'il n'était pas, il n'avait pas la shape, etc., bah, c'était dans le premier qu'il fallait le finir, et puis il y avait la place, et puis il n'y a pas eu ce push de la part de Yair, et je ne comprends pas, et bah c'est cool pour Ortega qui a eu autant de galères, hein, qui se bat vraiment pas souvent. Et là, bah, hein, comme de nulle part, le mec se retrouve, bah, dans la discussion pour aller chercher potentiellement un title shot. Ou alors moi, je pense qu'ils vont le mettre contre, comment il s'appelle l'autre là déjà, Mobsarev, Evloev, pardon, excusez-moi. Je pense que ça ferait du sens de faire ce combat-là. Bon, après, il y a le vol qui est toujours là, hein, Alexander Volkanovski, ouais, Alexander the Great, il est toujours là, bien sûr, mais là, clairement, il faut qu'il prenne une petite pause, donc je pense pas qu'on veut le mettre dans une discussion directe. Il faut qu'il se rebatte cette année, oui, certes, mais alors là, il va vraiment falloir, réfléchir au retour que ça va être. Et puis, il y a évidemment Max, hein, mais Max, bon, il y a le combat en lightweight contre Justin Gaethje, je suis terrorisé à l'idée de voir Max se faire knockout par Gaethje. Ou alors, ce putain de débile, de fou, il irait peut-être à la guerre pour 5 rounds, hein, ça c'est à 100% possible aussi, et puis avec Gaethje, c'est compliqué, quoi. Y a moyen, donc ouais, ça dépend beaucoup de ça, mais je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ce... Moi, ça ferait du sens de mettre Ortega face à Evloev, quoi. Ce serait trop tôt de mettre Evloev contre... Peut-être un chouïa trop tôt de mettre Evloev contre... Topuria, même si ce serait vraiment, il y aurait eu, pourrait y avoir du fond entre ça, parce que bon, bah, Evloev, évidemment, charrie beaucoup, charrie tout le monde sur les réseaux, parle beaucoup. Donc ouais, écoutez, hein, je m'évade un peu, mais moi je reste sur ce Ortega versus Evloev. Là, ce serait nice parce qu'en grappling, là, ce serait bon parce que bon, bah, Evloev, il est très bon à amener ses gars au sol et c'est un gros problème pour toute la KT, ça je tiens vraiment à le dire. Mais Ortega est plus créatif au sol, beaucoup plus. Ce serait intéressant, ce serait intéressant. Et passons au main event entre Moreno et Royval, c'est le deuxième, je pense. Et bah écoutez, moi j'ai pas forcément compris le scoring. Hein. Je veux revoir le combat En fait, on va passer par le combat direct. Premier round, c'est Royval, je trouve, qui est plus entreprenant et avance sur Moreno qui doit se déplacer latéralement hein, le long de la grille. Mais c'est Moreno qui connecte bien et qui counter très bien avec le premier crochet du gauche. Et celui-là, il le renvoyait très bien pendant 3 rounds. Je trouve que la main droite de Royval est vraiment pas disciplinée dans le sens où il la garde pas proche de son menton, il met pas son téléphone quand les coups arrivent, il la garde trop basse, je trouve. Et ça aurait été un problème pour lui parce qu'il s'est fait connecter plusieurs fois avec cette main-là. Moreno, lui, veut tranquillement veut repartir au milieu du mat et place quelques attaques fuyantes. Royval, lui, avance tranquillement avec quelques jabs, mais Moreno time encore très bien son counter et reconnecte Royval avec ce crochet du gauche. Royval, lui, veut aller au clinch, hein, mais Moreno passe du genou et casse l'échange très très vite, mais rythme assez pépère, j'ai envie de dire, au premier round. On sent l'expérience des cinq rounds côté Moreno, lui qui prend ça de façon vraiment une approche très posée. Alors on se demande déjà, moi je me demandais quelle sera la solution pour Royval avec déjà des jabs assez ineffectifs. Deuxième round, quelques échanges de low kick qui profitent à Moreno qui sait mieux varier son striking. Hein. Un simple bas donne une droite directe à Moreno. Moreno arrive aussi à catcher des kicks et à repartir avec une main avant. Royval propose principalement du jab, mais bon, son jab déjà n'était pas très bon au début. Hein. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de piquant dans son jab. L'allonge est pas forcément jusqu'au bout la façon dont il déplie son blara pour aller chercher son jab, on dirait qu'il met des petites claques de karaté comme ça là, comme ils aiment bien faire comme un espèce de serpent là. C'est bizarre ce jab là, et y a pas vraiment d'effet parce qu'à part peut-être garder l'adversaire à distance mais sans aucun damage derrière, bah ça fait quasiment rien quoi. Moi je trouve que Moreno connecte plus dans tous les scénarios. Royval mange beaucoup trop de crochets gauche à chaque coup. Hein. Moreno peut le préparer tranquille. Moreno gère bien la distance. Hein, dans la poche, ça connecte bien. Royval commence à mieux utiliser ses kicks par contre en fin de round et varie les niveaux. Alors ça, c'est bon pour lui. Mais Moreno coupe court, catch un kick, l'amène au sol et travaille dans la garde de Royval. C'est pas mal, c'est pas mal pour l'instant pour Moreno. Alors, je ne comprends pas. Il y a deux arbitres sur deux qui donnent le deuxième round à Royval. Bon, après, quand on regarde les chiffres à la fin du combat, hein, je vais revoir les autres rounds. Hein, mais moi, j'avais mis 2-0 Mexico pour l'instant après le deuxième round. Il y a plus de strikes côté Royval, mais moi, je trouve que les strikes qui ont mis plus de damage et qui ont plus vraiment connecté, je veux dire, pas dans la garde, mais direct dans la face, bah, ça a été Moreno, quoi. Mais vu qu'il y a quasiment, peut-être pas le double, mais pas loin de strike, mais Royval, genre, ça a tout été dans la garde et ça a été mou, je trouve aussi. Mais les arbitres ont vu ça, et puis apparemment les médias aussi, hein, y en a pas mal. Il y en a deux de chez Bloody Elbow, bon, un qui l'a donné pour Moreno, un de chez qui l'a donné pour Royval. Je parle du combat, hein. Il y en a beaucoup. MMA Fighting, Sherdog, Cageside Press, Sport Illustrated, The Score, tout ça là, ils l'ont donné à Royval. MMA Mania, MMA Junkie l'ont donné à Moreno. Ouais, troisième round, Royval essaie de pousser Moreno contre la grille et travailler des middle kicks que Moreno catch. Beau scramble de lutte derrière, vraiment, je trouve que ça devenait décourageant pour Royval, mais là, Moreno était encore dans le bien. Et Moreno a aussi une bonne garde haute. Hein. Comme je vous dis, Royval envoie tout dans la garde et avec pas beaucoup de power, pas beaucoup de rotation dans les coups et dans les combis de Royval. Ça doit être un peu mou, je vous avoue, quand ça arrive dans les mains. Royval continue avec les kicks et Moreno mange pas mal de low kicks. Alors, ça, par contre, maintenant je m'en rends compte, ça a dû compter comme du damage. Les combis d'anglaise de Royval, par contre, sont sans aucune efficacité. Même dans les phases de lutte, Moreno est très calme. Encore une fois, on sent l'expérience des 5 rounders. Donc, vraiment, dans mes notes, j'ai vraiment problème avec le jibe de Royval. Beaucoup sont lancés, peu importe, hein, et peu ont un véritable impact dans le combat parce que le jab, Ça peut être une arme qui fait mal sur des un coup, mais c'est surtout un grind, le jab. C'est, tu t'en sers pour tout, c'est la base dans la boxe, et puis en MMA, c'est très important aussi, quoi. C'est ça qui prépare tes combinaisons. C'est ça qui garde ton adversaire à distance. C'est ça qui te dit à toi à quelle distance est ton adversaire. C'est ça aussi qui peut faire mal, hein. Si tu en lances bien, ça peut faire du damage aussi. Puis on est avec des petits gants, donc si tu le tames bien, tu peux faire très mal. Bref, c'est une arme qui est absolument nécessaire, mais qui là, comme je vous le dis, avec plus les aspects différents que peuvent avoir le jab dans un combat, et ben côté Royval, ça remplissait aucun de ces critères selon mon humble avis. J'avais 3-0 pour le Mexique. Peut-être je m'enflamme, hein. Peut-être je m'enflamme, écoutez, c'est possible, mais bon, je suis là pour vous dire ce que je pense. C'est quatrième round, quatrième round. On reste au centre du mat. Moreno est à deux doigts de passer un takedown, mais s'est retrouvé en dessous de Rodvide qui ne peut même pas en profiter. Zéro pression, je trouve, sur le headlock. Moreno peut vite se relever. Alors ça aussi, pour moi, c'est la marque du champion. C'est ces moments-là qui sont déterminants où ça peut partir dans un sens ou dans l'autre. Bah, généralement, ça partait dans le sens de Moreno. Moreno finit désormais ses combis avec un low kick. Hein, ça peut bien passer aussi. Et j'ai un petit passage à vide, pardon, de Moreno qui reste passif pendant environ 10 secondes et Royval l'emmène au sol facilement. Alors on se relève et petit scrap contre la grille, mais pour moi, ça a montré la première petite tournure du combat, je pense, où Moreno commençait à baisser de rythme. Alors maintenant, du coup, il essaie d'envoyer un peu plus de head movement, hein, et du coup, ça complique aussi la tâche de Royval qui doit désormais enfin chercher des angles. Il a attendu le quatrième round pour ça. Vraiment une grosse baisse de rythme dans la deuxième moitié, on va dire, du round de Moreno. Alors là, celui-là, je l'ai pour Royval, par contre, ce round, clairement. Cinquième round, toujours des jabs inutiles, hein, de pire en pire pour Royval. Évidemment, il y a la fatigue qui rentre en jeu, donc là, ça devient vraiment pas bon. Moreno boxe un peu au milieu du ring, mais préfère lutter contre la grille. Il doit être un peu cramé, ça se sent, parce que dans le cinquième round, plusieurs fois, il va aller chercher la lutte. Il a un double under pour contrôler Royval contre la grille, mais Herb Dean demande plus d'action et coupe la séquence assez vite, hein, il sépare les deux. Brandon reste de plus en place et devient moins discipliné, je trouve. Il avançait moins avec sa garde disciplinée. Il s'est fait combiner plusieurs fois dans la face. Mais il reprend sa garde haute. Et encore une fois, là, les combis finissent beaucoup dans la garde. Il s'est fait clipper, par contre, hein, dans les phases où c'était Moreno qui rentrait. Royval commence un peu forcément à s'énerver au milieu du mat. Hein, il reste 90 secondes. Moreno, duck under, ça, il le fait très bien. Hein, quand Royval essaye de passer des combinaisons, Moreno, duck under, donc ça veut dire qu'il va passer au-dessous de son bras, relever la tête pour aller prendre le dos de son adversaire debout, passer un body lock, pousser contre la grille. C'est smart de la part de Moreno. Il reste 90 secondes. On sent qu'il est un peu cramé, qu'il y est moins. Herb Dean laisse très peu de répit à Moreno. Hein, demande direct de l'action. Double under de Moreno. Comme je vous dis, il a toujours le double under hook, mais Herb Dean stop encore une fois. Il laisse vraiment pas beaucoup le temps. Je trouve que là, il était un peu dur là-dessus. Il reste une minute en boxe au milieu, comme des vilains. Forcément, c'est la tradition. Et encore une fois, Moreno, duck under, nouveau body lock contre la grille. 10 dernières secondes, petit scrap, petit brawl. Et le combat ira pour Brandon Royval. Ouais. En tout cas, ceux qui ont vu le combat pour Royval, en tout cas, sont tous à 48-47. Et ceux qui ont vu le combat pour Moreno sont tous à 48-47 aussi. Donc, c'était clairement, clairement serré. Il y a un arbitre qui a vu ça différemment avec 4 rounds pour Moreno. Et les deux autres, hein, Michael Bell et Chris Lee, ils ont vu ça 48-47 pour Royval, avec pas forcément les mêmes gagnants dans les mêmes rounds. Donc je peux comprendre que ce soit serré, mais moi je vous le dis, je pense que je persiste et je signe. Je trouve que le damage, vraiment, ça s'appelle du significant damage, bordel. C'est la dimension. Voilà, je ne vais pas vous l'expliquer mieux que ça. Ça veut dire que c'est des coups qui doivent avoir un minimum d'impact au niveau du damage, au niveau du physique, etc. Et puis, bon, bah, apparemment, ceux qui sont comptés dans full guard avec 100 power, bah, ça compte là-dedans. Et puis, ça a donné la victoire à Royval. Je ne vois pas d'autre chose pour expliquer ça. Et là par contre, c'est compliqué pour Moreno. Parce que moi, je le voyais gagner, celui-là. Et puis, ça va être chaud. Ben, ça va être chaud dans le sens où moi je le voyais peut-être aller rechercher encore une fois un title shot derrière, hein, pour avoir, il me semblait, ça aurait été la troisième de la trilogie face à Pantoja. Et puis c'était un très beau combat face à Pantoja. Je verrais absolument Moreno contre Pantoja, mais Mais là, putain, ça nous met dans la merde parce que Pentoja contre Royval, ça a été un combat à sens unique hein, pour le champ. Donc, qu'est-ce qu'il y a chez les flyweight là? On va regarder ça vite fait. Il y a forcément l'ami Mokaev, lui aussi. Hein, il aime bien parler. Il aime bien parler beaucoup, mais il y en a d'autres qui arrivent. Hein, il y a Tetsuro Taira aussi. Bon, lui, il est encore loin, mais il a beaucoup de travail à faire contre pas mal de classés, etc. On a qui alors? Alors, attendez. Kai Kara France, 4e. Brandon Royval, 3e. Ah oui, Amir Albazi, exact. Celui qui devait se battre ce week-end, justement, contre Brandon Moreno. Ça aurait été intéressant. Manel Capé, Mateus Nicolaou. Bon, il y a encore du très bon à Mokaev, 8e. Intéressant. Intéressant. Tatsuro Taira, 15e. Mohamed Mokaev, c'est ce fou de zinzin qui voulait se battre contre Taira direct. Le UFC sera jamais d'accord pour mettre ces deux prospects jeunes dans la cage aussitôt, là. Surtout. Un Tchétchéno anglais et un japonais, là, tu sais, c'est genre deux fanbases bien distinctes, là. Il faut les bercer, il faut les dorloter, les deux. Manel Capé, lui, qu'est-ce qui lui est arrivé récemment à ce gars-là, là? Je sais plus, il me semble, il a perdu, non? C'était pas ça, son dernier combat? Ah, je sais plus. Bref. Il y a du. Ouais, on est chez Flyweight, hein, il y a que du bon. Franchement, on se régale à chaque fois. Et puis, ce combat était le fun, mais pas non plus. Pas le meilleur, j'ai envie de dire, de Moreno et qui a pas fait le strict minimum, hein, ce serait beaucoup trop sévère, mais qui a fait du Moreno simple. Et moi, je pensais que ça allait être assez pour gagner, et apparemment, non. Voilà, la petite carte du Mexique. Hein, enfin, le UFC revient au Mexique, mais pas avec les bons combats, c'est bête. C'est pas forcément trop tard, hein, mais c'était pas les bons. Voilà, on en voulait d'autres des combats, et puis c'était l'année dernière. Mais c'est pas grave. C'est grave pour Yair là, parce que maintenant Yair a perdu contre. Il a perdu contre Max. Et il a perdu contre. Contre qui il a perdu d'autres? Ah, je sais plus. Bref, là c'est contre Ortega, c'est dur quoi. C'est dur. Et puis. Moi, hier, ça me gênerait absolument pas là qu'il soit toujours un peu top 5 jusqu'à la fin de sa carrière là, et puis qu'il fasse que des gros combats de temps en temps, ça me va aussi. Mais hier, la trempe de champion là, ça commence à être compliqué. Et encore une fois, je vous le dis là, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé dans ce premier round, dans ce deuxième, dans ce troisième. Je pense que j'en ai assez parlé. Vous avez compris mon point. Merci pour l'écoute de ce podcast. Et on se reparle très bientôt. Très bientôt. Merci à tous. Ciao.
At the end of the day, it is what it is.